Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lepivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Fabrice.
Olivier Coudron sur Nutri Radio, comment ça va Olivier ?
Pleine forme, très bien. J'espère qu'il en va de même pour toi.
Ben oui, pour moi et puis pour tous les auditeurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux. Merci à vous de le faire et si vous êtes sur le live, ben, magnifique. Profitez de ce combo expertise santé et musique. Et si vous êtes en podcast, pensez à bien vous abonner pour ne rien rater de ces émissions. Alors, on remercie déjà notre partenaire, le laboratoire Lepivitz, laboratoire familial spécialisé dans les compléments alimentaires. C'est du clean label, vraiment. Ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage et sont des compléments de qualité. Donc, on les salue. Famille sympa en plus. Donc, voilà, on est content. On est content de les avoir en tant que partenaire, car s'il n'y a pas de partenaire, on ne pourrait pas vous proposer tous ces contenus, moult contenus fiables que vous écoutez sur Nutri Radio, et on n'aurait pas la chance d'avoir donc le docteur Olivier Coudron chaque mercredi avec nous pour prouver que nous sommes à votre écoute, chers auditeurs. Eh bien, nous l'avons dit la semaine dernière, nous allons répondre aux questions qui sont adressées au docteur Olivier Coudron, même si en antenne il m'a dit « mais j'ai un sujet passionnant, parce que vous savez que le docteur est très passionné par ce qu'il fait ». J'ai dit « oui, Olivier, la semaine prochaine, parce que là on va quand même répondre aux questions des auditeurs », soit à quoi il m'a dit « mais oui, évidemment, allons-y ». Et donc, première question de Antoine de Lyon qui vous dit « bonjour docteur Coudron ». Merci pour
bonjour Antoine.
Merci pour vos émissions, pour cette émission très claire, parce que c'était une émission qui parlait de la mastication notamment. Vous expliquez que la mastication augmente le flux carotidien et cérébral de 15 à 25%. A-t-on des données montrant si cet effet est transitoire ou s'il peut à long terme influencer la prévention du déclin cognitif lorsqu'il est intégré quotidiennement? Voilà la question.
Alors, très bonne question d'Antoine. Donc, c'est plutôt un flux cérébral qui a été mesuré avec ce qu'on appelle des radiographies. Des échographies transcrâniennes d'une part, et l'IRM en méthode BOLD. Donc c'est vraiment sur le cerveau qu'on a observé ce flux vasculaire, plus que sur la carotide elle-même. La carotide, c'est l'autoroute qui conduit du cœur vers le cerveau, et c'est dans le cerveau qu'on observe cette augmentation, en effet, qui va jusqu'à 25%. Très, très net, très, très efficace. Combien de temps ça dure? Alors, tant qu'on fait une mastication, et ça commence très, très tôt au départ de la mastication, on crée ces mécanismes physiologiques d'augmentation du flux dans le cortex, déjà. Le cortex, c'est la partie superficielle du cerveau. Le cortex préfrontal, c'est la zone des intelligences, la zone des réflexions, la zone de prise de recul également. On observe là, dans cette zone-là, une augmentation. Dans le thalamus également, et surtout dans l'hippocampe. Et c'est là que c'est intéressant, puisque l'hippocampe, c'est vraiment la zone cérébrale de traitement de la mémoire, des différentes mémoires. Donc, c'est vraiment quelque chose de local, c'est dans le cerveau, par des mécanismes d'ouverture de chinte, de modification des microflux vasculaires. Et donc, pour être tout à fait précis, c'est pas dans le flux carotidien, Antoine. Mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment dans le cerveau, dans cet organe. Alors, est-ce qu'il est transitoire? Oui, en effet, c'est transitoire. C'est-à-dire que ça va mettre en place un mécanisme d'augmentation du flux par plusieurs portes qui vont s'ouvrir, qui vont mieux oxygéner et vasculariser ces différentes zones du cerveau. Ça persiste quelques temps. Alors, quelques temps, c'est quelques minutes à une demi-heure après l'arrêt de la mastication, puisque là, je parle de tests qui ont été faits en milieu universitaire, en milieu de recherche scientifique. Mais la question d'Antoine, elle est pertinente. C'est-à-dire, si je l'intègre tous les jours, c'est-à-dire si je prends le temps de mastiquer, par exemple, mes trois principaux repas, voire même une mastication entre les repas avec des chewing-gums sans sucre, par exemple, ou une collation, on va croquer, mastiquer un petit peu des noix, des amandes, etc. Eh bien, lorsqu'on a régulièrement ce rendez-vous et qu'on active ces mécanismes finalement d'adaptation, alors en effet, on peut penser qu'il y aura une influence sur le long terme, sur l'oxygénation cérébrale, sur ces zones importantes dans le déclin cognitif. Maintenant, je vais être tout à fait transparent et honnête, est-ce qu'on a des essais cliniques, des observations scientifiques qui prouvent que quand on fait ça pendant quelques années, quatre fois par jour, on a, par rapport à des personnes qui mastiquent moins, est-ce qu'on aura moins de maladies neurodégénératives? Bien sûr que ces études cliniques-là n'ont pas été faites. Donc, on ne peut pas affirmer que ça influence la prévention du déclin cognitif. Mais soyons, non pas dans l'évidence-based medicine, mais dans le bon sens. Antoine, je pense qu'en effet, si on mastique lentement, consciemment, en pleine conscience, qu'on mange plus tranquillement, mais l'intime conviction, voilà, je ne vais pas parler de science, mais je vais parler d'intime conviction, que ça peut jouer un rôle très, très favorable, mais avec d'autres éléments, hein, bien sûr, avec l'alimentation santé, avec la densité en micronutriments. Voilà, une réponse à la fois précise, mais en même temps ouverte.
Alors, comme on va faire la... Ouais, j'allais dire, est-ce que, comme vous avez la liste des questions sous les yeux, est-ce que vous voulez en choisir une ou je les déroule un petit peu dans l'ordre? Parce que peut-être qu'elles ne sont pas toutes de qualité égale, même si elles sont quand même toutes bien écrites. Et merci à vous, hein, chers auditeurs, mais pour éviter de perdre votre temps et de surtout de ne pas pouvoir traiter le principal, hein, pardon, sans écarter personne.
Je vois qu'il y avait une question que je viens de recevoir là de Claire, qui est de la région de Tours. Bonjour Claire, oui. Qui nous dit...
Alors attendez, je vais vous la lire quand même.
Ah oui, c'est quand même mieux.
Non, voilà. C'est, voilà, je voulais juste savoir par quelle question on continue.
Allez, on fait ça, c'est bien, ça me convient.
Voilà, allez donc, Claire qui habite Tours, qu'on salue, on a salué tous les habitants de Tours, de la France, de la planète d'ailleurs, et de l'univers et du cosmos. Bonjour et merci pour vos explications concernant les nitrates alimentaires et leur conversion en monoxyde d'azote via le microbiote buccal. Existe-t-il, selon vous, des profils de patients pour lesquels cette voie est moins efficace, notamment chez les personnes âgées ou polymédiquées? On voit encore qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui nous écoutent quand même.
Oui, en effet. Alors, tout à fait, Claire. Pour avoir cette conversion des nitrates alimentaires en monoxyde d'azote, qui va avoir cet effet de vasodilatation favorable, je le rappelle, en effet, il faut, entre les deux étapes, il faut un microbiote fonctionnel. Alors la question revient à dire, est-ce qu'on a aujourd'hui des données solides pour dire que les microbiotes parodontales, orales, buccales, sont variables d'une personne à l'autre? Eh bien oui, c'est tout comme les microbiotes, les autres microbiotes, hein, le microbiote intestinal, qui est celui qu'on a le mieux étudié, en tout cas le plus anciennement. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de microbiotes qui participent à notre santé, à notre équilibre. Microbiote de la bouche, ce dont on parle aujourd'hui, le microbiote de la peau, le microbiote même vaginal, et même on parle maintenant d'un microbiote endométrial. Ça fait des choses assez incroyables, hein, qu'on ne soupçonnait pas il y a 5 ou 6 ans même en arrière. Alors pour le microbiote oral, oui, il y a, et ça c'est une certitude aujourd'hui, il y a des polymorphismes, c'est pas tout à fait ça. Il y a des populations, des phénotypes différents, il y a des variations des sous-populations des microbiotes. Alors, c'est dû à beaucoup de choses, beaucoup de facteurs comme toujours. L'âge que vous soulignez, en effet, avec l'âge, on observe une diversification différente, un appauvrissement, et surtout chez les personnes qui présentent, alors en effet, ces inflammations gingivales, ces parodontites qui sont très importante et très impactante sur la santé en général, pas seulement la neuronutrition, hein, sur la santé cardiovasculaire, métabolique, ça joue un rôle très important. Donc, chez des personnes au-delà de 40 ans, on observe ça fréquemment, plus fréquemment, qui ont des petites inflammations gingivales, qui ont des petites gingivites, voire parodontites, alors, en effet, c'est associé à un microbiote perturbé. Et ce microbiote perturbé, il sera moins producteur de monoxyde d'azote, tout à fait. L'autre question, c'était est-ce que chez les sujets qui sont polymédiqués, on observe des différences? Alors, surtout si on a des antibiothérapies, puisque c'est ce qui sera le plus impactant sur la diversification du microbiote intestinal et également oral. Et j'insistais lors de l'exposé sur les bains de bouche, les antiseptiques. On n'est même pas dans les antibiotiques, hein, dans les antiseptiques, les bains de bouche désinfectants, nettoyants, qui sont parfois donnés comme traitement par les chirurgiens dentistes ou les chirurgiens de façon générale pour un temps très bref. Et c'est intéressant de le faire quand c'est justifié et validé. Mais lorsque ce n'est pas pour le traitement d'une maladie, eh bien, ces médicaments antiseptiques, désinfectantes, on va dire, de la bouche, là, c'est tout à fait proscrit, c'est pas intéressant parce que ça va perturber les bactéries, hein, c'est le but, mais en détruisant les bactéries potentiellement mauvaises, pathogènes, eh bien, on risque d'avoir une destruction, on a une destruction des bactéries productrices de monoxyde d'azote, de conversion du nitrate. Donc, chez les polymédiqués, retenez surtout antibiotiques par voie générale, et là, c'est un écosystème complet qui est perturbé, et médication orale, les bains de bouche principalement. Après, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Les bêta-bloquants, par exemple, qu'on utilise beaucoup en cardio, vont réduire la prolifération, la production de salive, et la salive est indispensable pour ce métabolisme. Des psychotropes, des antidépresseurs peuvent aussi modifier la biochimie de la salive. Les inhibiteurs de la pompe à protons aussi peuvent modifier de façon très indirecte cet équilibre. Voilà. Donc, chez les sujets âgés et qui prennent plusieurs médicaments, en effet, cette conversion peut être délétère, Claire.
On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Soutenez votre bien-être mental et votre cognition avec les compléments alimentaires Lepivitz. Lepivitz, votre laboratoire familial expert en nutraceutique, vous propose des produits Clean Label aux ingrédients brevetés et soutenus par la science. Recommandés par les professionnels de santé, nos compléments allient qualité et éco-responsabilité. Nourrissez votre esprit pour une cognition optimale avec Lepivitz. Pour plus d'infos, rendez-vous en pharmacie ou sur lepivitz.fr. Lepivitz, votre allié pour un esprit clair et serein.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.
Le docteur Olivier Coudron qui répond aux questions des auditeurs cette semaine. Et vous le faites avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision. Merci. On enchaîne avec la question de Karim de Montpellier. Bonjour docteur, merci pour cette émission passionnante. Vous évoquez l'amélioration des performances cognitives grâce au nitrate, notamment via le jus de betterave. Est-ce que vous observez un intérêt spécifique chez les sportifs soumis à une charge mentale élevée, par exemple dans les sports de précision ou d'endurance?
Merci Karim pour cette question. Alors en effet, la betterave, la roquette, les aliments riches en nitrates, les légumes en général, mais bien sûr ces deux vedettes en particulier, améliorent la vascularisation. Moi j'en ai plus parlé dans le cerveau, mais c'est très très bien documenté dans l'amélioration de la vascularisation aussi somatique, musculaire et notamment chez les sportifs. Alors dans votre question, il y a deux éléments, le sport de précision et le sport d'endurance. On va commencer par le sport d'endurance parce que c'est là que c'est documenté, validé, recommandé par la plupart des sociétés de nutrition sportive. En tout cas, c'est homologué, c'est connu et reconnu comme étant vraiment de l'évidence et based. Les jus de betterave, 2 heures environ, 3 heures avant un sport d'endurance, améliorent significativement les performances. Ça améliore vraiment la vascularisation, donc l'oxygénation, donc la performance musculaire, et ça réduit les problématiques de fatigue et d'épuisement au niveau des muscles du sportif dans l'endurance. Donc endurance, oui, c'est certain. Pour le sport de précision, alors moi, j'ai pas lu de données scientifiques, j'ai pas vu d'études qui s'intéressent à ces sports-là, comme le tir à l'arc, je pense, ou... Enfin, voilà, on peut dire que presque tous les sports nécessitent une grande précision et une charge mentale considérable. Les sportifs de haut niveau, ce sont des athlètes musculaires et cérébraux, hein, faut jamais l'oublier. Il y a une pression et une consommation d'oxygène cérébral très importante. Donc, cette question, elle est importante. Mais est-ce que du jus de betterave, donc des donneurs de nitrates, améliorent les tests dans ces disciplines-là? Probablement, je dirais, puisque ça marche, puisque ça fonctionne, puisque ça améliore la vascularisation du cerveau. Donc, en toute logique, on peut émettre des hypothèses. Moi, comme le disait Fabrice, j'essaie d'être très précis pour éviter les confusions et d'apporter de la précision. Donc, on peut émettre une hypothèse qu'on sait que ça marche. On sait que le sportif de haut niveau et de précision, il a besoin d'avoir une bonne oxygénation parce que le cerveau, c'est le plus gros consommateur d'énergie, d'oxygène du corps. Et pendant l'effort, c'est probablement moitié-moitié. Le sportif, il va utiliser autant son cerveau que ses muscles dans tous ces sports de précision. Donc, je dirais, j'émets l'hypothèse encore une fois que ça va marcher, mais j'ai pas d'études à vous mettre sous la dent.
Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, mon cher Olivier, c'est que avant d'avoir un rapport sexuel, il faut boire 2 heures avant du jus de betterave.
Exactement. Alors là, c'est encore une autre performance. C'est une autre performance, mais c'est en effet tout à fait pertinent, bien sûr.
Et non, bon,
en tout cas, majoritairement pour l'homme.
Voilà.
Pour la femme, je ne sais pas si ça a un impact très significatif, mais pour l'homme, c'est très clair.
Bon, mais voilà, il y a des petites astuces comme ça, merci Olivier.
Petites astuces au quotidien. ou pas.
Ou pas, oui, ou pas. Ou à l'année, ou peut-être c'est une fois par an, on ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est une fois par an, d'autant plus pour faire prolonger le plaisir.
En tout cas, ces aliments riches en nitrates, ce sont des petits cadeaux. Alors, il n'y a pas que ça, ce n'est pas magique. Il n'y a pas d'aliments magiques. Mais ça fait partie des choses à valoriser parce que c'est intéressant.
Bon, je vous laisse choisir la dernière question parce que vous savez, ça passe très vite. On n'aura pas le temps de répondre à d'autres questions. Cette semaine, on poursuivra. Il y en a d'autres, mais on poursuivra au fur et à mesure. Vous inquiétez pas, pas forcément l'émission de la semaine. Mais de temps en temps, voilà, on répondra à vos questions qui, de toute façon, sont très intemporelles. Et si elles ne le sont pas, les études cliniques et la science avançant, peut-être même qu'il y aura des éléments de réponse encore plus précis. Donc, je vous laisse choisir, mon cher Olivier, parmi toutes les questions que nous avons reçues et que je vous ai transmises, celle que vous voulez traiter maintenant pour terminer l'émission.
Bien, bien, bien. Alors, Amandine de Rennes,
alors, écoutez,
une jolie ville.
Amandine de Rennes, je l'ai et c'est ce que j'allais vous proposer, c'est marrant. Donc, bonjour docteur, merci pour la clarté de vos propos. Vous mentionnez que la mastication favorise les ondes bêta liées à la concentration. Ok, peut-on considérer la mastication comme un outil simple de régulation du stress chez les personnes anxieuses ou en surcharge mentale?
Alors, j'adore cette question, Amandine, parce que les premières constatations que j'ai pu faire sur la mastication, elles remontent à plus de 30 ans, et c'était justement sur l'autorégulation du stress. C'était quand j'étais encore jeune médecin et que je faisais mes études de chronobiologie à Paris. Et on avait constaté que les personnes qui bougeaient de façon régulière étaient moins stressées. Les mouvements périodiques, réguliers, les rythmes, comme ça, les rythmes diminuent la charge du stress, le cortisol. Alors, à l'époque, on avait surtout constaté que les enfants en classe qui bougent les jambes de façon rythmique sous la table, eh bien, sont moins stressés. Et quand on les empêche de bouger de façon rythmique, comme un petit métronome ses jambes, eh bien, leur niveau de cortisol augmentait. On voit ça de façon constante. Dès qu'on a un mouvement rythmique, les jambes sous la table, le balancement du corps, à gauche, à droite, ou à parfois d'avant en arrière. On voit plus ça chez les troubles neurodéveloppementaux, les troubles autistiques, du spectre autistique. Mais tous les balancements du corps, tous les mouvements rythmiques diminuent le stress. Et la mastication également. C'est un mécanisme puissant, régulateur du stress. Amandine, ça c'est passionnant parce que chez les rongeurs, que nous ne sommes pas des rongeurs, mais chez les animaux de laboratoire, on constate qu'il y a une augmentation de la mastication, du réflexe de mâchouillage, lorsqu'ils sont soumis à des stress, par exemple dans des labyrinthes, les pauvres petits animaux, on les met dans des situations stressantes. Eh bien, chez l'homme, c'est pareil. Si on a des charges de stress, des charges mentales importantes, je vous parlais d'anxiété, l'anxiété, c'est pas le stress, c'est deux choses différentes, mais on peut considérer qu'il y a une relation entre le stress et l'anxiété, eh bien, dans ces deux troubles, en effet, la mastication va réduire la charge de cortisol, qui est quand même le marqueur principal du stress, et ça diminue en effet la charge mentale. Donc, moi, j'ai souvent donné comme conseil aux jeunes élèves, aux étudiants, de laisser leur corps parler, de laisser s'exprimer les rythmes, par exemple, de balancer les jambes sous la table, d'avoir des petits mouvements. J'ai souvent enseigné aux différents professeurs d'école, aux enseignants, de laisser les enfants bouger. Ça, c'est important, de ne pas les mettre dans des carcans et des camisoles, hein, sinon ça fait augmenter la pression. Et donc, la mastication, comme nous dit Amandé, mastication comme un outil simple de régulation du stress, oui, 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 je vote pour.
Et alors, pardon Olivier, mais vous savez, ce petit mouvement justement que parfois font les gens stressés, où on a l'impression qu'ils sont nerveux, où ils bougent la jambe énormément, ils sont assis, et puis ils bougent la jambe comme ça, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est ce mouvement auquel vous faites référence? Et donc, on m'a toujours dit, moi, non mais arrête de bouger ta jambe. Donc, j'ai arrêté de bouger ma jambe, mais en fait non, il faut la laisser parce que ça baisse.
Ah. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu comme un échappatoire finalement, un facteur de régulation, un thermostat qui va nous permettre de réguler au mieux notre cortisol et nos mécanismes de stress. Donc, si on empêche ce mouvement naturel, on va augmenter la pression à l'intérieur de l'organisme. C'est une image, hein. On va augmenter la charge de stress et on va se désadapter. Et à chaque fois qu'on a pu inhiber ce mécanisme, eh bien, on constate une augmentation du cortisol.
Alors, pourquoi
laissons bouger les enfants.
Ben oui. Historiquement, on nous avait interdit ça? C'était quoi la légende urbaine qui fait que, ah non, mais arrête de bouger la jambe? Pourquoi?
Je pense que c'est peut-être notre tendance. Alors, il y a moins ça aujourd'hui, mais fut une époque, l'éducation, c'était normatif. Hein, c'était vraiment mettre tous les enfants dans un même moule, habiller de la même façon, se tenir droit, respirer, ne pas bouger. Voilà, la vie, elle apprend de mille et une façons. Les mécanismes d'apprentissage, ça serait intéressant de faire toute une émission sur les mécanismes d'apprentissage. Eh bien, on n'apprend pas tous de la même façon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mouvements et les différentes expressions du corps vont aider la personne, l'individu, à réguler la charge de stress. Et les petits mouvements périodiques, l'agitation, ça fait partie des régulateurs. Je me souviens, notre collègue et ami Christophe André était venu la première année de la neuronutrition à l'Institut SINE, à la faculté de médecine de la Riboisière, et nous avait expliqué, j'avais été passionné par ça, que lorsqu'on a une charge anxieuse qui augmente, la meilleure façon de baisser l'anxiété, c'est de bouger, de se lever et de marcher pendant une minute. Le mouvement rythmique, la marche, et la mastication fait partie de ça, ça réduit la charge de stress et ça réduit l'anxiété.
Eh bien, merci beaucoup, cher Olivier. On va se retrouver, non pas la semaine prochaine, parce que voyez-vous, une petite période de vacances. Donc, on va se retrouver dans une semaine, dans la semaine d'après. Voilà, c'est très clair. Mais d'ici là, repassez-vous toutes les émissions du docteur Olivier Coudron. Pour cela, rendez-vous sur le site nutriradio.fr, dans la partie médias et podcasts, et sur toutes les plateformes de streaming audio. D'ailleurs aussi, tout le monde, tapez dans la barre de recherche la neuronutrition et vous allez tomber sur le docteur Olivier Coudron. Merci, Olivier.
Merci beaucoup.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Si vous êtes sur le live, restez avec nous.
Neuronutrition, Olivier Coudron sur Nutri Radio.